April 8th. With the alarm clock, always there, normal. They, like normal, would. An old radio, a rocking chair, like the one with the house, the waxed parquet floor. I make a coffee.
Allô? Bienvenue pour le workshop entre deux artistes qu'on ne présente presque plus, Alexis Briclot, le chevelu, et Benjamin Carré à sa gauche. Nous allons pendant une heure nous retrouver devant deux artistes qui vont créer en direct à partir d'un fond blanc. Comme m'a dit Benjamin il y a deux minutes, on part du blanc. Ça pourrait être presque le titre du workshop. Et pendant une heure, donc, ils vont nous dévoiler à peu près tout ce qu'ils savent et un peu plus. On va voir. Sur la technique de Photoshop. Ils vont travailler sur Photoshop, sur palette graphique. Alors peut-être que certains d'entre vous ne connaissent pas la technique. On va en parler. On peut poser des questions pendant tout le long du show. De la plus simple à la plus compliquée pour les initiés ou non. Donc on va les laisser se mettre en place. Le show va consister à un tour d'une demi-heure chacun sur une seule et même image, avec l'un qui parle et l'autre pas. Je précise ça. Bonjour. Parce que dans ce cas, c'est Alexis qui va commencer à parler.
Bonjour, vous m'entendez? Ouais. Bah, l'idée, en fait, voilà, c'est donc on va réaliser une image de A à Z en numérique pendant une heure. Donc, on va faire les chaises musicales, intervertir nos rôles au bout d'une demi-heure. L'idée, c'est juste d'optimiser un petit peu le travail. C'est extrêmement dur, en fait, de faire une image qui soit réussie dans ces conditions-là. C'est-à-dire qu'on n'est pas chez nous, on n'a pas nos habitudes, l'espace de travail habituel. C'est des conditions un petit peu plus, on va dire, rock'n'roll. Et donc, voilà, Benjamin ne va pas parler. Il est muet pendant la première heure. Il s'occupe juste de faire des trucs derrière, sur l'écran, et de faire avancer l'image. Et moi, je peux répondre à la fois à vos questions, raconter des histoires, des blagues, ou différents trucs.
Alors, juste avant les blagues, est-ce que tu peux du coup en profiter pour présenter un tout petit peu en deux phrases le travail de Benjamin?
En fait, je vais lui laisser se présenter tout seul. Après. Plus tard, quand ça sera son tour. Je peux juste me présenter rapidement et surtout évoquer voilà, le lien qui nous unit quelque part, le fait d'avoir travaillé ensemble plusieurs fois. Donc, je pense qu'on a le même profil ou un profil relativement similaire où tous les deux, on bosse à la fois dans l'illustration, notamment couverture de livres, différentes choses, tout l'univers ludique, les jeux, le jeu vidéo également, le cinéma, Benjamin beaucoup plus que moi, et la bande dessinée. Je dirais qu'on est relativement éclectique en termes de style, en termes de technique. On a particularité aussi tous les deux de travailler, enfin à l'heure actuelle ça me semble un des standards habituels, de travailler en numérique tous les deux, donc à la palette graphique avec différents logiciels. On a été amené à collaborer ensemble tous les deux, notamment on s'est rencontrés au studio Darkworks, on bossait sur un titre qui s'appelait Cold Fear. Benjamin, ça faisait plusieurs années qu'il bossait là-bas. Et donc voilà, dans un cadre professionnel, en fait, travailler en équipe, on a été amené à partager les mêmes fichiers, à réfléchir, brainstormer sur les mêmes idées. Donc c'est pas du tout l'image qu'on a habituellement de l'artiste qui travaille au fond de... qui travaille au fond de sa cabane, qui réfléchit seul. Là, c'est plutôt un travail collectif avec les autres corps de métier, avec les autres concept artistes, gérer un maximum de contraintes. Je pourrais en parler là plus avant, puisque j'ai cofondé un studio de jeux vidéo qui s'appelle Dontnod Entertainment, qui a maintenant 3 ans. Donc, c'est un gros, gros travail collectif. Ça, il y a juste des gens qui sont intéressés. C'est voilà, où les échanges se font, que ce soit avec les animateurs, avec les game designers, avec tout l'aspect, le moteur. Et rien ne se crée ex nihilo, et en gros c'est juste gérer avec goût un maximum de contraintes pour arriver à un objectif efficace. C'est peut-être un petit peu nébuleux ce que je dis là.
Et là du coup la collaboration elle passe de 2 à combien quand tu parles de ce studio justement?
Bah après il y a collaboration proche, nous on est 70 à l'heure actuelle. Je pense que dans le studio où on travaillait avec Benjamin, ça devait être pareil, le même chiffre pour des projets ambitieux. Ça fait quand même une grosse, grosse équipe. Après, forcément, tu collabores pas de première main avec tout le monde, mais il y a toujours cette notion d'échange, de travail collectif qui est extrêmement importante. Juste pour revenir avec notre collaboration avec Benjamin, donc effectivement, on a été amené à travailler sur les mêmes images, à pas mal brainstormer. Moi, il y a un des moments que je préférais, c'était le discu-café, c'est-à-dire aller prendre un café à la machine à café et discuter de plein, plein d'autres choses. Donc de nos projets bande dessinée, de la vie, du cinéma, l'actualité. Et souvent, en fait, on revenait à des problématiques du jeu, des choses à résoudre. Notamment, on planchait sur je me souviens d'une créature en fait qui avait été extrêmement complexe à appréhender au niveau du style, au niveau du look, mais pas seulement, et également au niveau de ce qu'elle faisait. Et je crois qu'il devait y avoir 4 concept artistes à l'époque qui planchaient dessus. Donc on avait planché tous une semaine dessus, ce qui représente en fait un mois jour homme, juste sur une même créature. Et en fait, il n'y avait aucune solution valable qui s'était dégagé. Enfin, quand je dis valable, c'était à la fois en termes d'esthétique et en termes d'originalité. C'était pas, entre guillemets, à la hauteur. On n'avait pas débloqué, trouvé l'approche idéale pour envisager ces créatures. Et en fait, je me souviens juste voilà, de la petite discussion à côté de la machine à café. Tu balances des idées, tu parles d'un truc qui n'a absolument rien à voir parfois. Et en fait, comment dire, le cheminement intellectuel se fait par rapport à des choses dont on a déjà discuté. Et puis tout d'un coup, un petit déclic inattendu. Et c'est toujours assez drôle et assez plaisant. Voilà, et tous les deux, on a été également amenés à bosser sur d'autres projets. Il y avait un jeu qui s'appelait Zombie, un jeu de plateau sur lequel on s'est partagé le travail, une grosse couverture, où on avait à la fois bossé, Benjamin était plus spécialisé, enfin c'était focalisé plus sur le décor, moi sur les personnages de premier plan, et pour la petite blague, la petite histoire rigolote, c'est qu'on s'était pris en photo, donc n'importe comment, pas de super qualité photo, mais c'était juste un mélange de pour produire plus vite, efficacement. Et je dirais aussi, j'ajouterais une note super importante, c'est rajouter un petit peu de fun, des éléments rigolos, on va dire, dans la conception de la couverture. Donc moi, je devais être le zombie qui vomit au premier plan, et Benjamin, c'était celui qui se retourne au second plan et qui regarde bizarrement la caméra.
Si vous avez déjà des questions, n'hésitez pas à appeler ou à l'interrompre en hurlant.
Je vois pas très bien ce que fait Benjamin. L'écran est super sombre. Donc il est parti sur une composition horizontale cinémascope. Vous voyez bien ou pas?
C'est un peu trouble pour l'instant, mais ça
moyen,
va s'affiner.
Ils disent coussi-coussa, si tu pouvais éclaircir un petit peu artificiellement. Les paramètres en fait, qu'on a sur l'écran, et forcément qu'une projection comme ça, la lumière du soleil et la lumière ambiante, c'est pas du tout la même chose. Donc en fait, ce que vous voyez pas, c'est que c'est bourré de détails. C'est sur l'écran, là, on dirait que c'est quasiment fini.
Ah, c'est presque fini, ouais.
Ouais. Et donc l'idée, c'est qu'ils travaillent sur des petites îles flottantes dans l'espace. On pourrait parler d'influence Miyazaki.
Quand Benjamin commence comme ça, il se considère plus comme graphiste ou sculpteur là en fait, parce que là, il part sur des aplats, sur des touches.
Bah, le fait qu'il ait commencé, en fait, c'est il m'a forcé la main, il a dit c'est moi qui commence et c'est pas toi. Il se prend un petit peu pour le roi, un égo surdimensionné, donc c'est lui qui donne le ton et qui a fait tous les choix. Je le laisserai se venger après, en fait.
Il y a une question.
Non, je pense que, encore une fois, je pense que ce sera Benjamin qui sera plus à même de répondre à cette question détaillée. Et juste pour faire vite, en fait, je pense que moi j'ai la même approche et tout, c'est un travail de dégrossissage. C'est-à-dire qu'on travaille pas au trait, c'est pas un travail linéaire avec un crayonné, un ancrage. Et là, en fait, c'est pas un travail de contour, c'est plus un travail effectivement de masse. Là, il a placé une grosse masse noire sur laquelle il va venir interagir, en fait, à la fois avec de la lumière, des zones éclairées, des zones plus sombres. Et effectivement, ça s'apprend plus à un travail de sculpture en 2D. Mais je le laisserai développer, il sera plus éloquent que moi.
Il y a une question.
Ouais. Bonjour. Est-ce que quand vous travaillez en équipe sur un projet, vous avez un pack de brush commun pour avoir une esthétique commune, ou c'est vraiment chacun sa méthode et vous rejoignez après sur la finalité?
Je pense qu'on a un processus relativement similaire. Bah, déjà, le fait d'utiliser le même outil, entre guillemets. Cela dit, en fait, on en a parlé juste avant, on a essayé de se régler tous les deux parce qu'on n'a pas les mêmes même façons d'utiliser l'outil, pas les mêmes raccourcis, pas forcément les mêmes brosses. Ce qui fait voilà, que c'est toujours un petit peu délicat quand on travaille dans un espace qui n'est pas le nôtre pour une démonstration comme ça. Dans un cadre professionnel, je dirais que c'est plus une histoire de style. Après, les outils, les brosses, pour moi, j'allais dire, c'est secondaire. Peut-être pas tout à fait, mais c'est plutôt la vision, ce que tu fais. Si tu veux avoir une image qui soit, je sais pas, froide, plastique, si tu as plus une approche impressionniste, donc tu vas travailler plus dans la suggestion et ce genre de truc. Et ensuite, pardon.
Et dans les studios, là, quand tu parles donc du travail de game design ou autre, est-ce qu'il y a encore des gars qui travaillent en traditionnel finalement, au marqueur ou...
Non, pas chez nous. Après, je veux dire, les marqueurs, si c'est l'outil privilégié, je veux dire, un tableau Velleda, des marqueurs, une feuille de papier pour communiquer des idées super rapidement, t'as pas besoin de t'installer sur une bécane. Quand tu fais un brainstorm, séance de réflexion, voilà, je sais pas, game design, ou ce qu'on appelle level building, c'est-à-dire créer des niveaux, tu peux avoir une machine d'appoint à côté, regarder quelques images, des photos, mais en général, non, il faut être immédiat, et c'est ce qui te vient en tête, ou même faire des schémas explicatifs extrêmement clairs. Effectivement, le médium papier, on va dire un feutre, là, justement, je ne parle pas de rentrer dans les détails, de créer une image qui soit figurative ou chargée en détail, c'est vraiment l'essentiel, c'est une plateforme, un bonhomme bâton, et communiquer juste avec ça. Donc, je dirais que c'est peut-être le seul ce qu'on conserve en fait au niveau traditionnel, le rapport avec l'outil papier. Ou sinon, je pense par rapport à moi, les autres concept artistes et tous, on a tous chacun nos petits carnets dans lesquels on amoncelle des idées. On peut peut-être parfois peaufiner un petit croquis, le scanner, l'utiliser comme base de départ, mais c'est pas forcément l'outil qui est le plus utilisé, quoi.
Des questions ? Est-ce qu'il y a des peintres numériques dans la salle ? Ceux qui connaissent un peu
deux,
Photoshop,
trois,
et autres.
4.
Est-ce qu'il y a des dessinateurs, je dirais, qu'on qualifierait traditionnels dans la salle ? Ah, il y a encore du marché à prendre, là. Va bien se porter.
Enfin, s'il y a des gens que ça intéresse, on peut peut-être rentrer dans le débat numérique et traditionnel. Moi, c'est un débat, j'en parle souvent à chaque fois qu'on me demande, qui est un petit peu obsolète maintenant. Quand on bosse en numérique, en fait, c'est les mêmes éléments à maîtriser qu'en traditionnel. Notion de perspective, d'anatomie, théorie de la couleur, tout ce genre de choses. Après, c'est juste l'outil qui change, avec des facilités d'un côté, la notion d'accident en fait, de l'autre en traditionnel, mais qu'on peut retrouver également en numérique. Effectivement, il y a plein de raccourcis, il y a plein de façons d'aborder les images, mais à la base, en fait, voilà, c'est être faiseur et produire une image. Pour moi, ça change pas grand-chose, en fait. Moi, actuellement, j'essaie de me remettre à la peinture traditionnelle. C'est ce que je faisais, en fait, à mes tout débuts. J'ai encore des choses à réapprendre, mais c'est plus, on va dire, les couleurs que j'utilise, les pigments, comment elles réagissent à la couleur entre le moment où on les pose sur la toile et le moment où elles sèchent. Préparer le gesso, tout l'aspect systématique. Bah, je ferai un parallèle avec quand tu ouvres un fichier sous Photoshop, comment tu le prépares, est-ce que tu le laisses en RVB, est-ce que tu travailles en ce qu'on appelle CMJN. Je ne vais pas rentrer dans ces détails-là techniques qui peuvent être un petit peu laborieux et chiants à écouter. Donc il nous a placé un petit soleil, une planète ou une petite lune. Je pense que tu peux éclaircir encore plus. Mais les gens ne voient rien de ce que tu fais là. Tu viens là en fait.
Globalement, c'est un travail plus rapide qu'en traditionnel.
Il y a une petite question. Est-ce que juste vous pourriez prendre le micro comme ça tout le monde vous entend ?
Est-ce que tu peux élaborer sur la notion d'accident en peinture numérique ?
Ben, il y a des gens qui développent plus des brosses, ce qu'on appelle. Je déteste ça. J'ai le terme en anglais, random. Donc, on parle de. Aléatoire, pardon. Minable, excusez-moi. Et donc voilà, des outils aléatoires. Et après, il y a la façon de travailler, superposer des calques, travailler de façon plus intuitive, c'est pas préparer à faire une image extrêmement léchée, mais à y aller avec des gros coups de truelle, des coups de brosse, être sélectif dedans. Travailler avec des superpositions de calques. Là, on parle de Photoshop, mais il y a également d'autres outils, en fait, où on peut être plus expérimental, c'est-à-dire faire des importations avec des outils 3D, que ce soit Google SketchUp, que ce soit ZBrush, mélanger un petit peu, mixer un petit peu les sources. Ça peut être un autre soft, moi, que j'utilise de temps en temps, ArtRage, ça peut être Painter. Il y a PaintTool SAI également, qui est plus un travail de dessin au trait. Il y a mixer en fait les deux, qui peut être super intéressant, c'est-à-dire en fait mixer du traditionnel avec du numérique. Il y a plein de façons de l'aborder. Ça fait longtemps que j'ai pas été expérimental comme ça, mais à une époque en fait justement j'essayais de travailler en fait sur une mise en place en fait numérique, faire une sortie en fait traditionnelle photocopie et ensuite en fait réimporter, rescanner mes images. Donc il y a plein de façons d'aborder les choses. Et là, je vais juste passer un petit truc qu'on avait prévu en fait rapidement, c'est que je vais prendre en photo quelques modèles qui traînent par ici, donc dans le ton un petit peu steampunk. Comme j'en parlais tout à l'heure, l'image qu'on avait fait avec Benjamin, où on s'était utilisé en modèle, donc on était en survette, et après on s'était complètement repeint en mode zombie. Donc là, je vais essayer juste de travailler avec une petite base pareil similaire. Donc on a trouvé 2-3 modèles qui sont carrément dans le ton steampunk. Moi, je le fais rarement, c'est une technique que je peux utiliser de temps en temps. Utiliser des modèles photos pour exagérer. Là, on a des modèles costumés. Moi, ça m'est arrivé en fait de me prendre en photo avec une serviette autour du cou ou des potes ou des amis comme ça pour avoir les bases en fait, me faciliter la tâche au niveau du dessin. D'autres fois, en fait, je fonctionne à l'inverse, c'est-à-dire je vais photographier des copains, ma frangine, de la famille, des proches pour les utiliser en tant que modèles. Et mon objectif, c'est pas de faciliter le dessin, c'est que j'aimerais qu'ils soient ressemblants. J'ai notamment travaillé sur des couves Marvel où transformer mon approche en quelque chose de plus ludique et de plus fun, je voulais qu'on reconnaisse les personnages et qu'on reconnaisse mes proches. Disons que c'était mon objectif, que j'affichais pas aux clients, mais c'était ce qui pour moi rajoutait un petit peu plus de fun à faire l'image. Donc voilà, on va peut-être
Monter un modèle qui traîne, comme tu dis.
Bah oui, on en a plusieurs là qu'on a sélectionné très vite juste avant. Par contre, je vais devoir lâcher le micro peut-être, donc je vais juste vous voyez un petit peu la composition. L'idée à travers ça, ce serait d'intégrer un premier plan avec des silhouettes de personnages. Donc on verra ce que ça donne. C'est un petit peu expérimental. Il y aura peut-être des accidents justement. Il y a aussi l'aspect, en fait, je vais essayer, ça va être très short, mais me départir ou m'éloigner du rendu photographique ensuite. Et donc l'idée, ça serait de gérer des silhouettes ou un premier plan sur le coin, c'est le même que vous, ouais, le coin gauche en bas. Voilà.
Donc une petite séance photo.
L'idée, ce serait de gérer un premier plan sur la gauche, le coin bas gauche. Ouais, si tu fais juste une petite tâche ou une petite plateforme, une amorce, juste une forme géométrique. Ok, je ferai moi. Bon, allez, hop. Les photos, je vais laisser la parole à Benjamin et je vais essayer moi de finaliser l'image avec un premier plan et on va voir ce que ça donne. Donc utiliser des photos brutes, m'en départir un petit peu, utiliser des forces en fait ou les points qui étaient intéressants avec la pose photo, des modèles qui ont bien voulu nous prêter leur image. Comment ?
Pas encore. Bah, je crois que oui, Benjamin est un peu plus carré qu'Alexis sur ce coup-là.
De quoi ?
Le temps, c'est le temps. Donc,
ouais, il est plus. Mais on est à quoi ? On est à un quart d'heure là ou une demi-heure ?
Il te reste 10 minutes à parler encore.
J'avais pas compris. C'est pour ça que je m'étais affolé un petit peu, en fait. Je pensais qu'il restait... Ah, bah voilà, on va ralentir le tempo. On va se poser un petit peu plus. On va raconter des blagues.
Tu veux un café ?
Hein ?
Alors, si vous avez des questions, parce que là, sinon, il va se relâcher totalement. Gardez-le concentré.
Ouais,
vous, vous aviez envisagé déjà l'image en partant d'un paysage.
On a discuté un petit peu. Encore une fois, je disais voilà, si on arrive en mode impro avec une bécane qu'on connaît pas très bien, là c'est la dernière fois on avait fait ça sur la machine de Benjamin, j'étais complètement perdu sur sa tablette. Là pour le coup c'est l'inverse et c'est peut-être lui qui doit souffrir, qui connaît pas mes raccourcis, les habitudes, juste appréhension en fait de la machine elle-même. Et après voilà, c'est arrivé devant le public, trouve l'interface et si tu mets un quart d'heure avant de t'y retrouver et avant de choper en fait un minimum de repères, c'est un peu pénible. Une petite question.
Bonjour,
bonjour.
Merci pour ce workshop. Je voudrais juste savoir quelles ont été vos collaborations à tous les deux.
Comme je disais tout à l'heure, en fait, c'était sur le jeu vidéo Cold Fear où on travaillait au sein du studio Darkworks. C'est un jeu survival horror, un bateau abandonné en pleine mer. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait, je me demande si on n'a pas fait des couves ensemble. Et l'autre truc, en fait, où là vraiment c'était assez rigolo et plaisant, c'est un jeu de plateau qui s'appelle Zombie. Qui est sorti chez Asmodée, qui a été traduit ensuite aux États-Unis. Et en fait, on avait fait à la fois la couverture et on s'est occupé de la majorité du packaging et également en fait les petits bonus. Benjamin adore les jouets, les toys, tout ça. Il avait planché en fait sur le design des figurines, donc vraiment extrêmement sommaire, toute petite taille. On avait planché également, moi j'avais dû plancher sur un espèce de repère qui permettait de noter les points. Et bref, on avait essayé de travailler sur le concept global. Je crois qu'il y avait des cartes qui ressemblaient à des Polaroids. Où justement c'était nous qui avions amené l'idée pour égayer un petit peu le truc là. Donc c'était plus un mélange, enfin en tout cas un projet assez fun de le faire ensemble. Je crois que l'éditeur qui est extrêmement sympathique, moi j'ai pas mal travaillé avec eux et tout, avait un petit peu souffert par rapport au retard qu'on avait accumulé en pensant que le projet était annulé. Voilà, ça arrive souvent, ça.
Et cette couverture, si je ne me trompe pas, elle est quand même pas mal réutilisée, on la trouve régulièrement.
Ouais, je ne sais pas si c'est la thématique zombie, mais... Je dois avoir une version tatouée, quelqu'un qui m'a envoyé.
Vous faites piller régulièrement quoi, sur cette image.
Sur celle-là particulièrement, ouais. Il y a eu un DVD film horrifique série Z qui est sorti en Hollande, on n'était pas au courant. Ils l'ont ressorti du. Enfin, ils l'ont. Comment dire ? On a envoyé un petit courrier, ils l'ont retiré tout de suite en fait des bacs et du marché. Ça a été utilisé sur plusieurs bouquins avec notre accord et pas notre accord en Italie, en Espagne. Je dois avoir une version aussi, quelqu'un qui s'est fait tatouer le motif, donc ça doit être ma tête et celle de Benjamin en mode zombie sur le bras. Je dois avoir aussi une version graphée dans une ville en Amérique du Sud. Je ne sais pas exactement où c'est. La personne ne m'a jamais répondu. Mais un gros graphe énorme, une peinture murale. Et je crois que je dois avoir encore 2-3 autres trucs qui tournent autour de cette image-là. Donc il faudrait qu'on en refasse une comme ça, un de ces quatre, une image zombie pour le fun. Par rapport à ce que tu disais tout à l'heure.
Des questions ? Non, vas-y.
Moi, je parlais de la couve Marvel, là, justement, où j'avais utilisé des proches. Et pour la petite anecdote, Benjamin, il est aussi assez... encore une fois, c'est lui qui en parlera, mais assez enclin à utiliser des techniques, on va dire, transversales et rigolotes, quelque part, astucieuses. Il pourra parler, c'est quoi, c'est ton truc à thé, là. Et moi, c'était juste sur cette couve Marvel, en fait. Donc, j'ai pris plein de proches en photographie. Il y avait un mec, un pote à moi qui partageait le même local. C'était peut-être la personne sur l'image en question que j'ai le moins retravaillé, qui ressemblait, en fait, à Hercule, le personnage Marvel. Donc, il avait la barbe, il avait les traits de caractère. C'est peut-être la personne sur la couverture que j'ai le moins modifié. Donc, c'était assez plaisant. Et j'ai pris également pour un autre personnage qui s'appelle Rome, qui est un espèce de robot graphiquement, on va dire qu'il a une tête qui ressemble à un pavé métallique. J'avais pris un toaster en photographie pour le retravailler, donc je trouvais ça assez rigolo.
Tu fais F.
Donc là, il y a une importation de matière, tu peux nous en parler.
C'est chiant, non ? C'est technique et on va perdre tous les gens.
J'en sais rien. Bah,
on a juste ouvert une... Comment ? Non, c'est bien. Bah là, Benjamin vient juste d'ouvrir une photo neutre de texture, donc peinture, truc mural. Je ne sais pas trop ce qu'il va faire, en fait, s'il va utiliser en fait, comme une texture globale sur l'image pour juste rajouter du grain, encore une fois, artificiellement, c'est un moyen comme un autre, pour juste rajouter de la matière, ou si au contraire, en fait, il va l'utiliser pour aller texturer ces petits rochers, la surface. Donc là, ben, donc c'est global, il dit.
Alors, sur les collaborations, Alexis, tu peux nous parler deux secondes de ton ouvrage Merlin avec Jean-Sébastien Rosbard, par exemple, parce que ça aussi, ça a été quand même un bel exemple de collaboration. Ouais,
c'était un gros projet. C'était un livre donc thématique arthurienne sur le personnage de Merlin, comment revisiter le mythe et le rendre classe et actuel. Avec Jean-Sébastien Rosbach, c'était écrit et ça a été initié par Jean-Luc Istin qui m'avait appelé en me demandant et ça ne dirait pas de faire un beau livre. Moi, hors de question, le faire seul, c'est beaucoup de travail et c'est quand même toujours plus passionnant et enrichissant et à la fois motivant de travailler en binôme. Donc je me suis tourné avec mon pote Jean-Sébastien qui était un petit peu réticent au début, qui en avait un petit peu marre de la fantaisie et qui finalement en fait était convaincu. Et donc en gros, voilà, c'est un gros livre illustré de 120 pages sur lequel on s'est à la fois partagé le travail graphique, les illustrations, la composition globale. Enfin, le truc plaisant dessus, c'est qu'on a tout géré, le design graphique et tout le maximum de choses, la typographie, le canevas également, voilà, des échanges avec Jean-Luc Istin, comme ça, rapport avec Merlin, le mythe, rapport avec la Terre. On a structuré le livre en chapitres qui chacun correspondent à l'idée des saisons. Je pourrais en parler pendant deux heures, je pense. On a fait plusieurs représentations pendant les workshops extrêmement complètes là-dessus. Donc c'était un petit peu long.
Alors pour te rassurer sur l'aspect technique de certains passages, là j'ai devant moi deux, trois dans le public qui sont en train de noter même les modes de fusion utilisés et autres. Donc tu vois que ça peut intéresser quand même.
Ils sont peut-être que trois aussi.
Peut-être, mais c'est déjà ça. Une question.
Bonjour.
Je ne vous vois pas. Ah si, pardon.
J'aimerais savoir quelles sont vos références quand vous faites vos illustrations.
Alors moi, cette question-là, je la trouve toujours extrêmement difficile. J'ai quelques influences, on va dire, séminales ou des artistes qui m'ont influencé quand j'étais plus jeune, des bandes dessinées comme des choses qui n'ont rien à voir, le Scrameustache, par exemple. J'ai dû avoir ma période Astérix et Obélix quand j'étais petit, différentes choses qui m'ont marqué là, de façon un petit peu floue. Des artistes plus tard qui m'ont vraiment poussé à la peinture. Mais de façon générale, en fait, je pense que j'ai pas un seul artiste favori. Enfin, il y a deux choses en fait qu'on pourrait mettre côte à côte. Il y a les artistes, en fait, enfin les faiseurs. Il y a ensuite les références, les influences qu'on chope un petit peu partout, ici et là, quoi. Et côté artiste, en fait, j'ai un background, moi, où j'ai fait un BTS image de communication qui était plus porté graphisme que illustration et figuratisme. Et en gros, je pense que j'apprécie autant le graphisme pur, le travail typographie, la photographie, image de com, quelque part. Donc voilà, quand tu travailles sur un bouquin, c'est aussi... Enfin, moi, j'aime bien penser comme ça. C'est tu réalises pas, tu travailles pas seulement sur une image que tu vas donner à l'éditeur. C'est réfléchir à l'ensemble, ce qui va être donné à voir au public, au spectateur, au lecteur. C'est-à-dire, en fait, la couverture maquettée finale avec le titre qui a son importance. Détail à la con également, c'est si on t'oblige en fait à gérer le code-barre. Enfin voilà, le code-barre est sur la couverture, tu peux pas le déplacer. Tu sais que ça va créer un blanc optique, un espèce de petit carré en bas à gauche. Donc c'est pas super parfait, ça vient casser ta composition. Mais bref, c'est prendre en compte tous ces éléments, quoi. Donc c'est un ensemble de contraintes. Pareil, j'adore la photographie, j'adore le cinéma, la bande dessinée, le comics, l'illustration, le jeu vidéo. C'est tous des domaines différents. Ce que je ressors extrêmement souvent, j'ai l'impression de me répéter un petit peu, c'est que ce soit la bande dessinée, l'illustration, le jeu vidéo, ces trois médias qui sont liés par l'image, c'est-à-dire on doit produire des images, mais la finalité et la façon d'appréhender les choses, elle est complètement différente. La bande dessinée, c'est du storytelling, c'est de la narration. C'est la narration séquentielle, c'est du développement. Tu as développé une histoire en utilisant des codes particuliers. Et à contrario, en fait, l'illustration, c'est un travail de synthèse. Tu vas synthétiser une histoire, une idée forte en une seule image. le concept art pour de jeux vidéo, que ce soit du concept art précis ou des illustres de pré-prod, encore une fois, c'est pas tout à fait la même chose. Des illustres de pré-prod, tu vas donner le ton global, donner l'envie à la fois à l'extérieur, c'est-à-dire si tu rencontres des investisseurs, des distributeurs, pour donner préciser en fait toutes tes intentions, donner quelque chose de concret avant de passer à la 3D, ou sinon tu as l'aspect concept art pur et dur, et c'est là l'outil, on va dire, plus technique pour donner corps à un univers en fournissant aux artistes 3D, environnement et personnages, ben, un maximum d'informations pour que eux modélisent, pour que la modélisation soit faite en fait de cet univers-là. Donc à chaque fois, c'est pas les mêmes enjeux, donc tu n'utilises pas tout à fait les mêmes outils, en tout cas pas tout à fait la même façon de communiquer. Par exemple, en jeu vidéo, je dirais qu'il y a toute une phase qui est vachement plus technique, où tu dois vraiment rentrer dans les détails. Si tu travailles sur un personnage, tu vas le présenter, faire ce qu'on appelle une vue orthographique ou un 360 ou un model sheet en dessin animé. Enfin, les termes divergent, mais c'est la même chose. Et c'est juste un espèce de plan de ton personnage de face, de dos, de côté, avec exactement les lignes de hauteur, où tu as dû réfléchir aussi à la fonctionnalité. C'est-à-dire qu'en illustration, parfois, tu peux avoir un style un peu plus évocateur, une approche un peu plus impressionniste, où tu vas travailler plus sur les masses, avoir une image forte, où tu vas pas taire, mais tu vas pas tout montrer, tout dévoiler, tu vas jouer justement sur la suggestion. Si tu fais du concept art pour du jeu vidéo, en fait, non, pas du tout, quoi. Ou alors vraiment, et c'est rare, en fait, où non, ça fonctionne pas comme ça, tu peux pas travailler sur le... ou miser sur la suggestion et la capacité de projection des gens en fait derrière. Sinon, c'est que tu dois résoudre un maximum de problématiques fonctionnelles en 3D, je sais pas, pour un personnage, une créature, un robot, comment il bouge. Pour un environnement, tu dois penser à l'emplacement de la caméra, à qu'est-ce qui se passe au niveau game design, s'il y a des affrontements, des combats, la scénographie, en fait, comment tu vas réfléchir sur la lumière, un petit peu comme au cinéma. Enfin, comment dire, là, la caméra est imposée, mais ton personnage va rentrer dans un environnement par un endroit, va ressortir par l'autre. Donc, tu dois réfléchir à ce parcours-là, même s'il y a la possibilité, en fait, pour le joueur personnage de se retourner, de faire un 360 et d'observer tout le décor. C'est à toi aussi de trouver des astuces au niveau de la gestion de la lumière, la gestion des codes graphiques, pour hiérarchiser un petit peu tout ça et quelque part conduire ou diriger le regard du joueur spectateur. Alors, j'ai répondu à ta question du tout.
J'ai l'impression d'une manière moi plutôt complète. Avant que Benjamin te coupe la parole, tu peux nous parler un peu de tes projets?
Ben, en ce moment, je dirais que c'est notre gros jeu vidéo avec le studio donc Dontnod Entertainment. On est 70 dans l'équipe, on a la moitié du jeu qui est à l'état jouable à l'heure actuelle, tous les gameplays sont implémentés, ça fait 3 ans que la boîte existe, donc nous on est parti de rien, on a dû tout monter, la structure, recruter, enfin, voilà, il y a beaucoup de choses moi que j'ai découvert qui dépassent de loin le cadre de seulement faiseur d'images, parfois très difficiles, qui m'ont éloigné un petit peu de ce que j'aime, créativité, tout ça, mais c'est vraiment passionnant, c'est un gros projet extrêmement ambitieux. On a juste commencé à communiquer récemment avec un premier teaser de concept artiste fait par l'équipe justement nos concept artistes, des images de pré-production. Ça se passe à Néo-Paris en 2084, donc c'est un projet d'anticipation, prospective proche. Et le postulat, c'est dans notre univers, il existe une technologie qui s'appelle le Sensen, qui est un diminutif de Sensation Engine, un moteur de sensation qui permet de digitaliser ou d'encoder en fait les souvenirs. Et voilà, ça se passe à Néo-Paris en 2084. Pas parce qu'on est chauvin, mais parce que le studio est basé là-bas, qu'on a plein de facilités pour aller prendre des photographies. On fait pas un travail, comment dire, scientifique de reconstitution. Et le truc, c'est pas du space-op, on n'est pas dans l'espace. Enfin, il y a plein de choses délirantes dedans.
Ça va sortir quand, ça, normalement ?
Ça doit sortir fin 2012, à l'heure actuelle, avec encore des variations sur la date de sortie. Donc, on en parlera beaucoup plus dans les mois à venir avec différents teasers, différentes choses, la communication qui va commencer. Et j'espère bien pouvoir revenir avec une partie de l'équipe en 2012 ici pour présenter le projet plus avant.
Et si je ne me trompe pas, il y a donc un projet d'énorme exposition consacrée à Alexis Briclot. Ce sera la plus grosse exposition européenne.
Ah bah c'est toi qui vas en parler, c'est toi qui as dit.
À la maison d'ailleurs. À la maison d'ailleurs, le musée de la science-fiction à Yverdon-les-Bains en Suisse. Et l'exposition risque, a de fortes chances de se retrouver ici aussi dans le courant 2013-2014.
T'en parlera mieux.
Je crois qu'il faut que tu switches peut-être là, parce que sinon
parce
on va se faire
lyncher
par une horde
donc
de personnes costumées.
Je vais laisser
la
parole à mon collègue Benjamin Carré.
Bonjour.
Merci Alexis.
Alexis, je te conseille de partir dessus et pas d'essayer d'aller sous les calques. C'est le bordel en fait. Je te mets un petit timer avant de causer, histoire que tu sache où t'en es. Voilà, ça c'est ton camembert qui s'emplit. Donc moi, je suis Benjamin Carré, on a un peu parlé de moi, j'ai entendu, j'ai pas tout suivi, j'étais concentré sur l'image. Ouais, on voit un petit peu, c'est dommage, c'est bien mieux là en fait. Hein. Alors, c'est quoi l'idée? C'est que je me présente?
Tu peux parler effectivement de ton travail. Et puis
ouais, comme Alexis, je touche à pas mal de choses. Je suis illustrateur, je suis concept designer, je suis aussi auteur de bande dessinée.
Tu travailles pas mal pour le cinéma aussi?
Oui, je travaille pour le cinéma aussi. Bah, concept designer, en fait, c'est pour les jeux vidéo, pour le cinéma. J'ai fait des trucs de théâtre aussi. Voilà. Donc le cinéma, c'est essentiellement des films d'horreur parce que c'est ces films-là où ils ont besoin d'illustrateurs. le dernier film sur lequel je bosse, c'est un film, j'ai pas trop le droit d'en parler, mais c'est avec des robots qui se transforment en véhicules. Sinon, y a un problème, Alexis. Très bien, c'était le câble. Ben sinon, oui, s'il y a encore des questions, faut pas hésiter. Sinon, moi, je peux m'amuser à... Oui, j'en vois là.
Ouais, bonjour. À propos des brushes que j'ai vu utiliser, en fait, l'édition de brush, j'ai pas encore trop touché à ça, mais ça a l'air vachement pratique. Comment ça se déroule c'est assez compliqué ou on utilise des brushes avec des trous dedans, des formes assez
spéciales. En fait, le principe de la brush, c'est assez technique.
Ah, excuse-moi, on n'a plus d'image sur le grand écran. Je sais pas si c'est ton câble ou la régie.
C'est revenu, mais t'es sur Windows là. Ah oui, non, c'est normal. Oui, donc, le principe des brushes est assez technique. C'est pour ceux qui connaissent Photoshop. Alors déjà, je vais le résumer. La brush, c'est quoi? C'est les pinceaux que j'utilise. Et des fois, c'est des tampons carrément qui ont une forme déjà prédéfinie. On peut s'en faire en forme d'arbre, en forme de maillon de chaîne pour faire toute une chaîne une fois qu'on l'a fait défiler. La brush, l'éditer, oui, c'est une forme que tu crées sur un fond neutre. Tu fais ta sélection de forme... tu peux lui montrer une création de brush? T'as pas le temps? Non. Ouais, non, ça c'est un cours Photoshop un peu pointu. C'est dans les. Je sais pas le montrer. Ça se passe là à droite. Non, elle expliquait comme ça. Ça, franchement, ça va. Personne va rien. Ouais. Il vaudrait mieux qu'on se voit en tête à tête et que je te montre. Voilà. Donc, oui, je vois une autre question.
Oui, bonjour. En fait, ça s'adresse un petit peu aux deux. Je repensais à l'histoire des brushes, justement. Mais ça n'a pas forcément grand-chose à voir. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, dans le cadre d'un projet, de devoir, comment dire ça, mettre au point une technique
Déjà, la création d'une brush, c'est en partie
oui,
mettre au point une technique.
Mais je pense, par exemple, je sais pas si tu vas sur le Café Salé, des fois, sur le forum...
Ouais,
il y a
j'y vais.
Sparte qui avait expliqué une de ses techniques où il prélève avec le clone, là je vais un peu dans les autres trucs techniques, je m'excuse, mais il clone une texture, puis il peint directement sur son truc par exemple. Il a mis ça au point pour en fait son boulot. En fait, donc des fois il faut.
Je vais répondre à la question, attends une seconde, je crois qu'il y a un souci. T'as fermé l'image sans enregistrer, c'est ça que t'es en train de me dire? Non.
Bon, les aléas du direct.
Fais une sauvegarde, ouais. Donc, Spart, je connais bien, j'ai bossé avec lui pendant plein d'années j'allais dire à Café Salé, n'importe quoi, à Darkworks. Il s'appelle Nicolas. J'ai pas lu ses cours, ce qui fait que j'en ai aucune idée. Mais oui, on met au point des techniques, mais même le fait de. Je me souviens que quand j'étais avec Nicolas au début à Darkworks, on dessinait papier-crayon. Les designers n'avaient pas d'ordinateur. Sauf que moi, comme j'étais freelance avant depuis longtemps et que j'avais commencé à dessiner sur ordinateur depuis que mon scanner était tombé en panne et que je bossais directement dessus, ça arrive comme ça, hein. C'est pas pour rien. Enfin, c'est pas un logiciel de dessin, c'est Photoshop. Normalement, c'est un logiciel de retouche photo. Rien que dessiner avec ce logiciel-là, il faut élaborer ses propres techniques pour pouvoir le dompter et pour que ça donne des illustrations. Pour le coup, j'étais un des premiers à lui dire « Allez, essaye !» Bon, lui, c'était un tueur au crayon, hein, c'était une saloperie. Je dessinais depuis longtemps sur ordinateur, il n'osait pas s'y mettre, c'était un peu un puriste et tout, du dessin, tout ça. Et je l'ai un peu poussé, je crois que j'ai créé un monstre, parce qu'au bout d'une semaine, impossible d'être... Enfin voilà, il m'avait éclaté. Et la première technique que j'avais donnée pour oser se mettre à ça, c'est ce dont tu me parlais, c'était de dessiner en masse. C'est-à-dire que le problème avec le stylet, c'est qu'on perd la virtuosité qu'on peut avoir avec un crayon. C'est plus grossier, le mouvement n'est pas direct. T'as un des problèmes, toi, on dirait, non ?
Il y a un petit souci d'importation sur le temps, là, mais bon.
Je continue.
On pourra faire ce qu'on pourra.
Et la première technique qu'on a mis au point, c'est le dessiner en masse. C'est-à-dire qu'au lieu de faire le contour d'un visage, eh ben, on va faire une grosse tache rose. Et ensuite, à la gomme, on taille dedans, vraiment comme en sculpture plate. Et oui, je vois que tu vois de quoi je parle. Tu me fais des oui, mais peut-être pas tout le monde. Le principe de dessiner en masse, ouais, c'est vrai, ça se rapproche vraiment de la sculpture. C'est qu'on fait un gros bonhomme patate qui ressemble à un barbe à papa. Et à la gomme, on dégrossit. Ce qui fait que c'est une façon empirique. C'est-à-dire qu'on n'a pas le trait, le bon trait. On ne l'a jamais. On pose des taches. Et ensuite, on trouve la bonne forme. Et plus on affine, comme en sculpture, on commence au marteau, au burin pour enlever les grands pans. Et à la fin, on finit au papier de verre à lisser les tout petits détails. Au lieu d'être en 3D, c'est en 2D. Mais là, je ne sais pas, quand j'ai fait les machins, et encore, ça n'est pas trop vu, mais ouais, je n'ai pas trop travaillé à la gomme. Mais d'habitude, oui, je fais une forme, et puis elle ne me plaît pas, et je la retaille jusqu'à ce qu'elle prend. Bon, ça, rien que ça, c'est la mise au point d'une technique pour dompter le logiciel. Après... Oui, bah observer les trucs, c'est du dessin, hein, malgré tout, c'est du dessin.
Lorsque tu travailles en masse comme ça, en rajoutant un petit peu de détails, est-ce que par rapport à les originaux, je dirais, en traditionnel, tu ne perds pas du détail, ou est-ce que c'est vraiment juste parce que c'est un produit consacré, destiné à l'écran ou à la ou
bah, potentiellement, par rapport au tradi, on peut même gagner en détail, on peut être vraiment très très fin. Moi, j'ai eu des couvertures de jeux vidéo à faire, où on me disait, alors c'est une scène de bataille pendant la Seconde Guerre mondiale, et je veux une foule au fond, après il y a un char, et après il y a encore une foule au fond qui sont en train de se battre, et ben je veux que si je zoome sur un des personnages qui est sur la foule au fond derrière le char, on voit le reflet blanc qui est dans l'œil. Donc ça, on l'a pas en tradit, ça, on peut pas faire ça. Et donc pour le coup, ça, oui, on peut aller très très loin dans le détail. En revanche, tu abordes un truc qui est important, c'est que. L'avantage de bosser en numérique, c'est que l'image ne se dégradera pas. Elle est potentiellement immortelle. Elle va pas. Il y a pas la poussière qui va se poser dessus. Il y a pas le soleil qui va abîmer les pigments. Mais comme tous les trucs immortels, elle a pas de vie. Quand on bosse sur Photoshop, on n'a pas les odeurs, on n'a pas la matière, on n'a pas tout le charme et on n'a pas l'original. On n'a pas l'objet. Et ça, c'est un truc qui me manque vraiment. Moi, je me suis retrouvé à bosser de plus en plus en numérique et c'est devenu vraiment mon outil de travail rapide, c'est-à-dire que j'ai pas à réfléchir quand j'ai une commande à faire, et j'en ai beaucoup. Donc quand j'ai une commande, je sors mon Photoshop et j'y vais. J'ai pas le temps d'expérimenter et de me remettre au traditionnel. Mais c'est vraiment un truc qui manque. La notion d'original, la notion de matière, la notion de mettre les doigts dedans, quoi, et voilà. Photoshop, on parlait de l'accident tout à l'heure, j'entendais un petit peu. Je crois que c'est le principal défaut du logiciel, c'est qu'on veut un truc, on l'a. Mais on a exactement ce qu'on veut. Et qu'en général, quand on dessine, ça devient génial quand on n'a pas ce qu'on veut, quand il y a un accident qui se crée et qu'il se passe quelque chose qui n'est pas maîtrisé. Parce qu'en fait, tout simplement, soi-même, notre imaginaire, il est pauvre, quel qu'il soit. Et si on a exactement ce qu'on veut, on a un truc pauvre, on a un truc qui va nous parler un peu à nous et aux autres. Et l'accident, c'est la nature qui vient intervenir et qui fait que ça va devenir riche.
Avant qu'il y ait une autre question, juste pour revenir sur ton histoire de manque d'original, en fait... C'est peut-être aussi juste un problème de génération, en fait, parce que tu es d'une génération entre les deux techniques, et les prochaines générations n'auront pas le souci de l'original, puisque ne l'ayant quasiment pas connu, quoi. C'est un peu le même débat qu'avec le livre numérique, non, peut-être ?
Je sais pas. Jusqu'ici, la peinture, c'était aussi un objet. Alors, on peut faire des tirages, hein, bien sûr, mais y avait quelque chose d'un original et un tirage, c'est pas pareil. Il y a quelque chose d'unique, un caractère unique qui disparaît. Alors après, c'est pas une histoire de génération, c'est ce caractère unique qui est très précieux. Quand tu achètes le tirage d'une toile ou la toile, tu payes pas le même prix et l'artiste touche pas la même chose. Non mais j'en arrive à des trucs concrets, quoi. Ça disparaît. Avec le numérique, ça disparaît. On peut toujours faire des trucs, oui, je promets que je ne tirerai que 10 tirages de cette œuvre, et puis voilà. Mais c'est des tirages, quoi. Et bon, bah ouais, c'est un truc qu'il faut accepter quand on s'y met. Moi, au début, je trouvais ça génial, hein, parce que quand je peignais, l'idée même de devoir vendre un de mes trucs et de m'en séparer, ça me rendait malade. Je voulais pas, moi, je voulais pas les sous, je voulais garder mon dessin. Et j'ai plus ce problème. ça a disparu d'un coup. Pour ça, c'était génial.
Est-ce qu'il y a des questions?
Oui, je vois une main qui se lève, une main barbue. Attends, une seconde, oui.
Je m'excuse un petit peu, là, je galère avec la machine, je sais pas ce qui se passe, elle a un petit pet là, il y a tout qui est cassé, je ne sais pas trop, on va continuer, et je me retrouve juste un petit peu dans l'état d'esprit, comme quand tu as une deadline super serrée, que tu dois envoyer un fichier à un client, il te reste peut-être 8 heures ou 6 heures, et tu sais qu'il n'y va pas y avoir assez de temps pour travailler, et donc voilà, Benjamin, tu pourras peut-être en parler de ça.
Oui, avant que tu poses ta question, moi je suis c'est vrai, ça arrive, effectivement, un plantage, une image qui disparaît, ça arrive, mais à l'inverse, on va beaucoup plus vite. À l'inverse, des fois, on a un boulot à faire et la veille au soir, tout est encore possible. En traditionnel, non. Le temps de séchage, tout ça, c'est, on oublie. Là, oui. Oui, donc il y avait une question là.
Oui, alors bonjour.
Bonjour.
Je voulais savoir si le dessin d'observation, ça prenait une grande partie de votre temps en tant que dessinateur ou vous avez abandonné ça?
C'était une grande partie de mon temps quand j'étais étudiant. Ouais, j'ai abandonné. Enfin, j'ai plus le temps de m'exercer en fait. Mais il faut que je le retrouve, c'est super important, il faut s'entretenir. C'est comme tout, c'est comme le sport, il faut vraiment s'entretenir.
Pour rebondir sur cette réponse de Benjamin, moi je dirais que côtoyant plusieurs illustrateurs, je m'aperçois que c'est l'œil qui fait la différence et pas la main. C'est vraiment l'observation antérieure de tes jeunes années passées sur les bancs d'école à faire des croquis qui fait l'œil de l'illustrateur adulte.
C'est la culture même. L'œil, enfin, c'est le goût, la culture. Il y a des gens qui dessinent très très bien, qui ont un coup de patte d'enfer et qui font des trucs kitsch qui fonctionnent pas forcément parce que leur culture visuelle, leur goût ne plaît pas à grand monde. Et c'est super important de pouvoir identifier ça, de savoir. Des fois, faut pas se dire comment faire pour que mon image elle soit mieux dessinée, mais se dire comment faire pour que mon image elle plaise plus. C'est un peu pute hein, de le dire comme ça, mais c'est important. Il faut en prendre conscience. Dans un rapport professionnel au truc, il faut vraiment en prendre conscience. Donc c'est une histoire de culture visuelle plus que d'œil ou de main. J'ai vu qu'il y avait une autre question par là-bas.
Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des droits d'auteur en France?
Des droits d'auteur en France? J'y connais pas grand-chose.
Oh, il y a de bons avocats.
Alors... Dans les trucs qui concernent les droits d'auteur, j'ai fait deux bandes dessinées, quelques livres illustrés. Si un jour j'en vends assez, je toucherai des droits d'auteur. Sinon, pour tout le reste de mon travail, quand je suis salarié dans une boîte de jeux vidéo, il n'y a pas de droits d'auteur, on est salarié. Quand je fais une couverture de roman, alors je crois qu'il y a un principe de droits d'auteur sur les couvertures de roman, mais qui est, la loi est un peu contournée, genre je touche des droits à partir du 800 milliardième bouquin vendu. Donc, voilà. donc, pareil, c'est un forfait, en fait, et ça va très bien. Ça permet de toute façon, c'est important, c'est une question importante. Moi, je ne vis pas sur mes vieilles images. Je veux avoir l'occasion d'en faire plein de nouvelles. Et donc, voilà. Mais non, je ne suis pas très calé à ce niveau-là. Je ne pourrais pas t'en parler énormément. Je suis désolé. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'en vois pas. Alors, je vais me poser moi-même des questions, les questions qui reviennent souvent. Il y a une qui me tient à cœur, c'est que souvent dans mes illustrations, j'utilise des photos. Là, c'était léger, j'ai amené une photo de texture. Là, Alexis, il y va un peu plus franco. Et souvent, on me demande, mais quand on apporte une photo dans une illustration, est-ce que c'est pas de la triche? Et c'est vrai que c'est une question importante. Et ça dépend. Déjà, tricher, c'est mentir. Là, je viens de vous dire que j'utilise des photos, donc je baratine pas au moins. Dans une optique de dessin traditionnel, on peut avoir ce sentiment-là, parce qu'en dessin traditionnel, il s'agit de dessin. Sur Photoshop, on est sur le logiciel photo, et le but, c'est l'illustration. Et quand, des fois, j'arrive au cas de figure où, si j'importe une photo de ciel dans mon image pour que les nuages y soient un peu mieux, effectivement, l'image est un peu mieux, et si je l'importe pas, elle est moins bien. Et qu'est-ce que je vais proposer à l'éditeur qui m'a commandé l'image? L'image mieux ou l'image moins bien? Je crois que l'éditeur, il préfère que j'envoie l'image mieux. ça, c'est mon point de vue. Je sais que on est plus ou moins puriste du dessin. On se définit comme dessinateur ou illustrateur. Et illustrateur, pour moi, c'est utiliser la meilleure technique, la plus appropriée à l'image qu'on veut obtenir.
D'autres questions?
Non, pas d'autres questions? Ça, c'est vache de me laisser dans le, dans, dans le silence. Vas-y, aide-moi, toi.
On va être un petit peu court en temps parce qu'on a démarré super tard et que je pense qu'il va y avoir une grosse pression pour qu'on libère la place après. Je préfère prévenir Alexis pour qu'il ne soit pas trop frustré après.
Vas-y, fonce, Coco.
Mais effectivement, bon, voilà, ça, là, ça fait une bonne question pour le choix de la machine, par exemple.
Ouais. Oui, donc, d'ailleurs... Je vois qu'il y en a qui prennent des notes, tout ça, qui regardent comment on fait. Il faut quand même que je dise que là, on savait qu'on n'avait qu'une heure pour faire une image. Et le but, c'est que l'image, elle est un peu la tronche d'une image finie à la fin. C'est super court, une heure, hein, pour faire une illustration. Et je le dis tout de suite, moi, je me suis installé. Vous ne m'avez pas vu tel que je travaille quand je suis à la maison. Quand je suis à la maison, je prends mon temps, je construis plus. Là, je n'ai pas eu de prise de risque, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de perspective dans cette image. J'ai fait du plan par plan. C'est pas un hasard si j'ai fait une image avec des espèces d'îlots qui flottent dans... parce que là justement aucune perspective à gérer, juste un rapport de profondeur qui est lié à un rapport d'intensité de valeur. C'est un contre-jour, je me fais pas chier avec les couleurs, j'ai juste mis un peu de rose dans mon bleu histoire de montrer que c'est un contre-jour. Et mais bon voilà, ça nous amène aussi des tenir compte des contraintes.
Et combien de temps passer sur une couverture par exemple? Alors
une couverture de roman, je passe 2 jours à peu près. Je peux être plus rapide des fois, ça dépend de mon énergie.
Et alors, est-ce que tu travailles sur brief de l'éditeur ou tu lis le roman?
Alors ça dépend. Avant je lisais plus de romans, maintenant j'en lis moins mais j'ai plus de commandes. En général je lis pas le roman. Sauf quand l'éditeur me dit « Tiens, je te file ce bouquin, je suis sûr qu'il va te plaire. » Bon, bah si t'es sûr qu'il va me plaire, qu'il y a du temps, pourquoi pas. Et j'ai découvert, enfin, moi, je suis un gros fan d'un auteur qui s'appelle John Varley, un auteur de science-fiction. Et c'est en faisant de ses couves que je l'ai découvert. Pour le coup, j'ai des bonnes surprises et ça sert à ça. Maintenant, je n'aime pas qu'on m'impose mes choix de lecture. J'aime lire les bouquins que j'ai envie de lire et pas ceux qui de mon travail. Et à un rythme de 2-3 couvertures par semaine... je lis pas spécialement très vite et j'ai un énorme respect pour le livre. Moi, quand on me dit oh, tu t'en fous, tu le lis en diagonale, non, je peux pas. Je lis pas le truc en diagonale. Attends, j'ai raté un truc intéressant. Je voyais que tout le monde avait les yeux levés. Et aide-moi, Gilles. Arrête de regarder ce que fait.
Si, quand même, je regarde un petit peu parce que là, il est en train de déformer les personnages et. Je croyais qu'ils étaient déjà assez costumés.
Ah, je les vois, ils sont pas contents, ils flippent là.
T'as vu ? Il est en train de te transformer là.
Ouais, bon, c'est un fou, Alexis. Donc, bon, alors le problème avec Alexis, c'est que comme il est pas très bon, moi j'ai fait une belle image, je vais la bousiller. Alors, j'essaie de les faire rire un petit peu parce que là, il y a un petit creux.
Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Profitez-en parce qu'on va quand même devoir, je pense, interrompre Alexis dans son élan.
Non, il reste un peu de temps. Enfin, théoriquement, il n'a pas fait sa demi-heure. Hein.
Théoriquement, oui, je sais, mais...
Et on est parti en retard. Ouais.
Ah, il y a une question.
Oui, quels sont tes projets, Benjamin, pour le...
Parle plus fort, excuse-moi, je ne t'entends pas.
Quels sont tes projets
pour, Mes projets
ouais.
Je sais pas. Alors, j'ai fait quelques bandes dessinées, ça me manque. Je viens de planter 2 clients parce que c'est des gros projets... Et que tout d'un coup j'ai réalisé que j'en avais marre de bosser sur les projets des autres, que je voulais me mettre à mes projets moi, comme la bande dessinée, comme les livres illustrés. J'ai bien envie de retenter une bande dessinée maintenant, mais j'ai pas encore bien le. Enfin, je veux pas le faire pour de mauvaises raisons. Je veux me choper un scénar qui me plaît bien. Mes boulots en cours. Alors j'ai bossé sur quoi récemment? J'ai bossé sur quoi, Alexis, récemment? Je t'avais raconté, non? Non mais je suis impressionné, je suis intimidé. Alors celui auquel qui me vient là, c'était Transformers. Je bosse sur Transformers 4. C'était rigolo ça parce que c'est une licence Transformers. C'est un des seuls films où le produit dérivé c'est le film parce que à la base c'était des jouets les Transformers. Ce qui fait que c'est Hasbro qui a la main sur le truc. Et donc c'est en bossant pour Hasbro par hasard j'ai compris que je bossais pour le prochain film. Il me demandait des storyboards, ça, je me disais c'est pour des pubs et tout, jusqu'à ce que je vois le mot de commande arriver, Transformers 4, bon, rigolo. Donc ça, c'est mes travaux en cours. Je bosse sur quoi? Sur des couvertures de comics Star Wars, et ça me tient beaucoup à cœur, parce que je suis un gros fan de Star Wars. Je suis un geek, j'ai des jouets partout dans mon bureau. Et c'est grâce à Alexis que je fais ça, d'ailleurs. J'en fais pas mal, hein, j'en ai fait une bonne trentaine, quarantaine, je sais pas, et je continue. C'est arrivé connement, on s'était retrouvé à un bar, on se voit pas souvent Alexis et moi, et quand on se voit on se fait un peu le point. Alors il y a le côté frime entre ouais tu fais quoi toi, ouais, tu... Bon. Et puis on gonfle un peu le truc, et puis Alexis qui me fait devant son, sa bière, ouais moi je viens de refuser des couvertures Star Wars, nanana, comme ça. Et je fais ah quoi, il cherche encore du monde. Et donc il était pas sûr en fait, parce que ça faisait longtemps qu'il avait refusé ce truc là, il n'avait pas le temps de le faire et tout ça, et moi même pas le temps, je m'en fous, Star Wars je fonce. Et donc, je lui ai quand même demandé de me filer le contact du gars qu'il avait contacté chez Dark Horse pour ses couvertures de comics. Et il a fait mieux que ça, parce que c'est lui-même qui l'a contacté, qui a envoyé mon book, qui a dit il est super et tout, machin. Il m'a ouvert grand les portes du truc. Et c'était assez rigolo d'ailleurs, parce que donc je me suis retrouvé avec mon book envoyé à Dark Horse, qui m'a réécrit en me disant c'est super bien et tout, on va travailler avec toi. C'était en 2008, je crois, courant 2008. Et on te contacte l'année prochaine pour d'éventuelles couvertures. En général, quand on fait le coup, on te contacte l'année prochaine. Ok. 1er janvier 2009, j'avais un mail de Dark Horse. C'était génial. Et c'était parti. Et donc, ils ne présentent pas quand ils disent qu'on te contacte l'année prochaine. Et donc, merci Alexis, parce que ça, vraiment, je prends mon pied sur ce truc-là. Donc, c'est mes trucs en cours, là. Voilà.
Et j'ai pas entendu parler d'un artbook chez Café Salé.
Si, il y a ça, mais je l'ai pas encore commencé parce que, à cause de trucs dont je viens de parler, c'est un cauchemar ce truc-là. Parce que j'aimerais bien mettre mes illustrations Star Wars, j'aimerais bien mettre mes illustrations de jeux vidéo. Et pour le coup, Star Wars, c'est super chaud au niveau licence à débloquer. Et rien que le casse-tête de ça, ça me prend du temps à mettre en place, à approcher l'éditeur, à approcher Lucasfilm, leur dire voilà, j'ai fait des illustrations Star Wars, est-ce que j'ai le droit de les mettre dans mon artbook. Je crois qu'on a le droit à un quota si ça dépasse pas les 30%, parce qu'après ils peuvent dire bah, non, c'est un bouquin Star Wars, on veut toucher nos sous. Mais avec Café Salé dont tu parlais tout à l'heure, oui, donc j'y vais des fois sur le forum puisque il y a un artbook prévu sur mon travail. Et ça va être cool. Merci de me le rappeler.
On se tiendra au courant. Vous avez d'autres questions, peut-être ?
Non, pas d'autres questions ?
Bon, on va attendre de se faire virer de scène, hein ?
Ouais. T'en es où, toi ?
Ok, j'ai l'impression qu'on va se faire virer de scène. Bon. On va vous remercier tous les deux, parce qu'il va bien falloir qu'on arrête à un moment
T'es
donné.
T'es sûr qu'on est obligé d'arrêter, là ?
On est parti en retard. On a combien ?
Ça grogne derrière ?
On a combien de temps, encore ? Moins 5 ? Moins 5 de quoi ? Moins 5 de 16 heures ou moins 5 minutes ?
Ouais, c'est un temps négatif, je crois, qu'il vient de te donner. On n'a plus le temps. Alexis, fais en sorte que ça soit fini maintenant. J'étais parti sur un contre-jour. Tu vois, si tu fais les personnages tout en noir, par exemple, l'image sera terminée. Tu le fais juste un petit liseré de lumière, par exemple, qui va venir faire l'accroche. Non, mais bon, t'es dégueulasse, tu fais du crabouillage, là.
Vous allez pouvoir les retrouver un tout petit peu après, de toute façon.
Si moi, je suis Nantais. Donc, les Nantais qui voulaient avoir des conseils Photoshop, voilà.
Si vous avez envie de leur parler, je pense qu'ils accepteront.
Ouais, sans problème.
Est-ce que tu peux nous faire une présentation de l'image dans sa globalité ? Puis bon, on va être obligé d'arrêter là quand même.
Il faut s'arrêter, Alexis.
Décroche-le, débranche-le.
Non mais là, il n'entend pas en fait.
Il refait.
Je vais faire la fée qui vient parler à l'oreille.
Tu veux pas remettre le modèle sur scène plutôt dans le rôle de la fée ?
Ouais, venez. Surtout qu'en plus...
Tiens, on va faire une photo avec les modèles. Allez, vous remontez, vous mettez derrière, on fait une photo avec le modèle. Merci à vous deux, merci Benjamin, merci Alexis. Tu fais une conclusion ?
Ouais, je ne sais pas faire les conclusions, j'allais parler de l'image encore, moi j'étais parti. En général, quand on utilise des photos, le but c'est quand même qu'il y ait moins de gouffre entre le dessin et la photo elle-même. T'as tout cassé toi.
Désolé, pour l'année prochaine on demandera un show de 2 heures.
Oui, ça serait génial.
Et du matos.
Tu veux faire une conclusion toi ?
Une machine adaptée. Ouais, moi j'ai pas eu trop le temps là en fait, j'ai pas fini. Je crois que j'ai dû bosser.
Si les modèles peuvent monter en même temps.
Enfin, 3/4 de mon temps et j'ai passé pas mal de temps. Là, je sais pas ce qui s'est passé avec la machine. Petite galère et tout. Donc, effectivement, Benjamin en parlait. Là, le collage est un petit peu rude, on va dire. Là, ça avait plutôt photomontage, je dirais presque de mauvais goût. Donc, l'image, il y avait des bonnes intentions, mais il reste encore pas mal de travail. Et voilà. Ils sont quasiment pareils sur la photo. On les a collés. On les remercie.
Et puis bon, c'est une belle transition pour ce qui suit juste après, puisque ça va apparaître cosplay.
Le cosplay. Merci Benjamin, merci Alexis, deux énormes artistes.
Merci à
et
toi.
On a la chance de les avoir. Ces souvenirs qui n'avaient servi à rien, qu'à laisser justement des souvenirs.
La première image dont il m'a parlé, il me disait que c'était pour lui l'image du bonheur.